Chapitre 31. Franks avait dispersé les chiens en tirant plusieurs coups de feu dans l'entrebâillement de la porte. Il n'en avait pas touché un seul. Du moins, le rayon de sa lampe n'avait révélé ni cadavre ni trace de sang sur les dalles de pierre usées du cœur. Il n'abandonnerait pas la partie. Il lancerait tôt ou tard une nouvelle offensive. Ou il n'aurait pas d'autre choix que de se dévorer entre eux, une solution à laquelle il ne recourrait qu'après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Ni les dominants, ni les inférieurs n'avaient intérêt à décimer la horde. Leur nombre et leur solidarité leur avaient permis de survivre dans un monde hostile, et ils perdraient de l'énergie dans les affrontements avec leurs semblables. Ils recevraient des blessures qui les condamneraient à une fin plus rapide encore que la famine. Leur seule véritable chance de s'en sortir était de se repaître de la chair et du sang des deux humains, puis de repartir pour une autre chasse, de flairer une autre proie, de retarder l'échéance. Leurs aboiements déchiraient le silence, sourds, presque implorants, comme si certains d'entre eux étaient déjà entrés en phase d'agonie. Souria s'était réveillée. Ses yeux anormalement ternes et ses joues creuses révélaient une santé défaillante. Franks ne ressentait presque plus sa présence silencieuse. Elle partait. Elle s'effaçait de la surface de cette terre, sans un cri, sans un soupir. Elle avait détourné la tête lorsqu'il lui avait présenté des fruits secs et un petit éclat de pain de glace qu'il avait enfoui dans un sachet en plastique et glissé dans un compartiment extérieur de son sac à dos. Elle refusait de s'alimenter. Elle qui avait jusqu'alors accepté sans rechigner la nourriture qu'il lui proposait. Du dos de la main, il constata que son front était brûlant. Elle avait déjà déployé une résistance et un courage exceptionnels pour parcourir le chemin depuis Paris. Ils avaient mené un train d'enfer dans un froid sibérien, en disposant de maigres ressources et en prenant seulement quelques heures de repos dans des refuges ouverts à tous les vents. Les autres gosses du même âge seraient morts d'épuisement ou d'inanition depuis bien longtemps. Théo et Zoé eux-mêmes, en principe plus résistants, n'auraient pas tenu le coup. Il paniqua soudain à l'idée de perdre Souria, et se demanda comment la ramener à la vie. Le froid et la fatigue étaient en train de l'emporter, et il n'avait rien pour la soigner. Il démantela le prie-dieu, la chaise et les étagères en aggloméré de la penderie, entassa le tout au centre de la pièce, glissa en dessous une aube de dentelle et l'enflamma à l'aide d'un briquet. Les flammes crépitantes s'élevèrent bientôt de l'amas de bois, en répandant une fumée imprégnée d'une âpre odeur de produits chimiques. Le feu ne durerait pas longtemps. Il lui aurait fallu récupérer le bois de la commode et du coffre tiré devant la porte à double battant, mais cela reviendrait à livrer la sacristie aux chiens. Ou alors, trouver un autre moyen de bloquer la porte. Avec des cales peut-être. Il n'y avait pas pensé jusqu'alors, mais des cales bien placées avaient autant, voire davantage d'efficacité que des meubles empilés. Il retira du feu des bouts de bois qui n'avaient pas commencé à brûler, les tailla en biseau à l'aide de son couteau et s'approcha de la porte. De ce côté-ci, les battants étaient équipés de larges béquilles qui permettaient de les tirer vers l'intérieur de la sacristie. De l'autre, lorsqu'on venait de l'église, il suffisait de les pousser. Il ausculta un petit moment le silence avant de déplacer légèrement les meubles et de glisser les quatre cales sous les battants, se servant de la crosse de son pistolet comme d'un marteau pour les enfoncer jusqu'à ce qu'elles se coincent. Il tira sur les béquilles de façon continue afin de vérifier leur résistance. Puis, voyant que le feu diminuait, il démantibula sans perdre un instant la commode et le coffre, dévissa les pièces métalliques, brisa les planches à coups de pied ou les arracha en s'aidant de son couteau comme levier. Lorsqu'il eut terminé, Souria s'était recouchée et rendormie. Il raviva le feu et constata que la fumée s'élevant de façon rectiligne, il ne risquait pas d'être asphyxié pendant leur sommeil. Elle s'échappait par le plafond et la toiture en partie détruite par l'effondrement du clocher. Il jeta dans les flammes deux des quatre pieds de la commode, dense et lent à se consumer, et revint près de Souria. La poitrine de la fillette se soulevait avec régularité. Il redoutait que sa respiration, très faible, s'interrompe tout à coup. Sans elle, il n'aurait pas le courage de repartir. Il lui caressa la joue et la regarda dormir. C'est le moment que choisirent les chiens pour attaquer. Des coups sourds ébranlèrent la porte à double battant. Franks déverrouilla le cran de sûreté du pistolet. Combien restait-il de balles dans le chargeur? Une douzaine peut-être. Sans le paravent du coffre et de la commode, l'espace paraissait découvert, indéfendable. Les chiens se jetaient violemment contre les panneaux. Leurs griffes crissaient sur le bois. Ils ne grondaient pas. Ils laissaient de temps à autre échapper un jappement impatient, aigu. Franks se leva et se plaça 5 mètres environ face à la porte. Il délaissa le fusil. 2 coups ne suffiraient pas à disperser la meute si elle réussissait à forcer le passage. Il n'avait pratiquement pas de recul et il lui faudrait tirer sans relâche, si possible en faisant mouche à chaque fois. La tension lui contractait la nuque et les épaules. Les lueurs des flammes étiraient des ombres dansantes sur les murs, révélant le plafond en partie affaissé. Encore enduit de plâtre, les débris des lattis pendaient autour de la brèche centrale d'1,50 m de diamètre par lequel s'engouffrait la fumée. L'assaut des chiens dura environ une demi-heure. Comme les panneaux bloqués par les cales ne cédèrent pas, ils s'éloignèrent en poussant des grognements de dépit. Franks attendit encore un moment avant d'alimenter le feu et de revenir près de Souria. Il la souleva sans la découvrir, la blottit confortablement contre lui et resta assis toute la nuit devant le foyer, persuadé que sa propre chaleur, associée à la chaleur des flammes, augmenterait les chances de la fillette de revenir à la vie. Les chiens ne se lanceraient pas dans une nouvelle offensive. Il baignait dans un calme parfait, accordé à la paix des ténèbres. Ses pensées se désagrégeaient sur un rempart de silence. Ils étaient seulement dans l'instant, sans passé ni futur, un homme et une fillette réfugiés dans une sacristie assiégée par des chiens affamés. Rien d'autre que deux fragiles souffles de vie dans un monde à l'agonie, dépouillés de leurs frayeurs et de leurs espérances, prenant chaque instant après l'autre, accompagnés par les sifflements du vent, les grincements de l'église, les craquements du bois. Il avait abandonné toute certitude. Il n'était plus le Franks vaniteux, arrogant, qui avait entraîné trois autres familles dans l'aventure du feu de Dieu. Le Franks calculateur, qui s'était mis en tête de maîtriser l'avenir. Le Franks théoricien, qui croyait trouver une réponse à chaque interrogation. Il n'était plus qu'un homme suspendu à la respiration d'une petite fille. Il percevait les battements de leur cœur au travers des étoffes. Ceux de Souria, légers et rapides, les siens, lents et graves. Deux rythmes entrelacés. Lorsqu'il reprit conscience, le feu s'était éteint et une obscurité totale noyait la sacristie. Il ne se souvenait pourtant pas s'être endormi. Son premier réflexe fut de vérifier que Souria respirait toujours. Elle était plongée dans un sommeil paisible. Il la reposa sur le matelas de chasuble, la recouvrit avec soin avant de se relever, de détendre ses muscles tétanisés. Puis il ranima le feu en rajoutant du bois et en soufflant sur les braises qui couvaient sous la cendre. Il réchauffa deux des galettes de farine rapportées de la maison de Milou et Josie et les mastiqua lentement en les accompagnant de dattes décongelées. Il s'efforça d'extraire de chaque bouchée le maximum de saveur et d'énergie. Il redécouvrait la dimension essentielle, sacrée, de l'acte de manger. Les repas des temps de l'abondance, de l'insouciance, n'avaient été pour lui que des rituels vides de sens, voire, quand ils se prolongeaient, des corvées. Un grondement étouffé lui rappela que les chiens rôdaient toujours dans les parages, estimant que leur proie finirait tôt ou tard par quitter leur abri. Peut-être également n'avait-il plus la force d'amorcer une nouvelle attaque et avait-il opté pour l'attente. Après son repas, il graissa, à la lueur d'une torche, le pistolet et le fusil et inventoria ses ressources. Il lui restait deux sachets de fruits secs, des barres de céréales au miel, trois tablettes de chocolat, des galettes de farine et le morceau de glace pour se désaltérer. De quoi tenir plusieurs jours et venir à bout de la patience des chiens. Il espéra qu'il lèverait le camp avant que Souria et lui n'aient épuisé leurs réserves. Elle dormit une grande partie de la journée. À plusieurs reprises, il la crut morte et se précipita sur elle pour lui prendre le pouls. Les battements de son cœur étaient toujours aussi rapides et de faible amplitude. Des frémissements de moineaux. Le hurlement prolongé d'un chien donna le silence d'un concert d'aboiements, de jappements, de grondements, de grognements, qui dura une bonne demi-heure. Il ne restait pratiquement plus de bois. Il entretint le feu au minimum, ne l'alimentant que lorsqu'il était sur le point de s'éteindre. Il se sentait frais, dispos, mieux reposé que dans la champignonnière de Buc, presque impatient de repartir. Il se retourna soudain, tracassé par une sensation de présence, de mouvement. Souria s'était réveillée et assise sur son matelas de chasuble. Ses grands yeux noirs avaient recouvré une grande partie de leur éclat. Elle lui souriait. Il lui proposa aussitôt de se désaltérer avec l'eau qu'il avait recueillie dans deux ciboires en faisant fondre à la chaleur des flammes une partie du pain de glace. Elle en but plusieurs gorgées et s'essuya les lèvres d'un revers de manche énergique. Il lui tendit une galette cuite dans la cendre et quatre dattes qu'elle mangea de bon appétit. Sa résurrection enchanta Franks, débordant d'une joie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Une joie simple, enfantine, une vibration claire et pure. Elle ne cessait de sourire, émerveillée elle aussi par son retour à la vie. Un silence durable s'installa, que les chiens ne dérangèrent plus. Pas un seul aboiement, ni un seul gémissement. Avait-il abandonné la traque? Franks chercha un moyen de s'en assurer. Il décida de grimper par la brèche dans le plafond, sur le toit de la sacristie, d'où il pourrait observer les environs. Même si l'obscurité persistante rendait la visibilité quasi nulle, les formes sombres et mouvantes des chiens se remarqueraient sur la grisaille uniforme. Il parla de son projet à Souria, qui l'écouta attentivement, avant de l'encourager d'un hochement de tête. Équipé de la torche et du pistolet, vêtu de son manteau, de ses gants et de son bonnet, il se jucha sur le haut de la penderie, d'où il put attraper le rebord d'une brèche d'une quarantaine de centimètres de largeur qui longeait le mur. Il agrippa une poutrelle, dont il vérifia la solidité avant de se hisser sur le plafond. Passant de poutrelle en poutrelle à la lumière de la torche, il atteignit la partie de la charpente éventrée par la chute du clocher et recouverte de cendres et de glace accumulée. De là, il parvint à se glisser sur le toit de la sacristie, légèrement pentu, à côté au mur de l'église et coincé entre deux arcs-boutants. De petites tuiles rouges et plates, déjà alourdies par la glace, se décrochèrent sous son poids, tombèrent dans la cavité et se fracassèrent sur les poutres. Il se releva, s'accrocha à une saillie de pierre pour se maintenir en équilibre et scruta les environs, qu'il dominait d'une hauteur de 4 ou 5 mètres. Un vent violent, soufflant par rafale, abaissait une température déjà polaire. Les ténèbres coiffaient les collines environnantes et les reliefs chaotiques du village habillé de gris clair. Il ne décela aucun mouvement dans les environs et en déduisit que les chiens étaient partis. Un halètement retentit derrière lui. Il se retourna et braqua le rayon de la lampe dans la direction du bruit. Des yeux flamboyèrent dans la lumière. Les chiens. 3 ou 4. Les plus déterminés. Ils avaient résolu de contourner l'obstacle par le haut et trouver un escalier dans l'église. S'ils n'étaient pas montés, ils se seraient faufilés par les brèches et, guidés par leur flair, se seraient laissés tomber du plafond éventré de la sacristie. Ils se dressaient, le poil hérissé, les babines retroussées, sur le rebord d'une haute fenêtre ogivale parsemée d'éclats pointus et irréguliers de vitrail. Il voulut tirer le pistolet de la poche de son manteau, il n'en eut pas le temps. Un chien bondit dans sa direction et le frappa de ses deux pattes antérieures. Il lâcha la saillie de pierre, bascula en arrière, s'affaissa sur les tuiles, perdit sa lampe dans sa chute. Le filet des lattis et des chevrons céda sous son poids. Il atterrit sur une poutre maîtresse. Le choc lui coupa le souffle. Il eut l'impression de s'être brisé la colonne vertébrale. Des grondements se répondirent au-dessus de lui, suivis de grattements. La tête du chien qu'il avait attaqué se découpa dans le trou de la toiture. La lampe, coincée dans une ferme, continuait d'éclairer la charpente blanchie par les chutes de cendres. Des ombres s'étirèrent et dansèrent sur les poutres et les pierres du faîte. Les autres chiens marchaient sur le plafond et se rapprochaient de lui. Franks parvint à bouger la main et à la glisser dans la poche de son manteau. Le pistolet ne s'y trouvait plus. Il lança un coup d'œil sous lui. Repéra l'arme, luisante entre deux traverses 1 mètre plus bas. Tendit le bras. Trop court. Un chien lui happa l'avant-bras. Ses crocs déchirèrent les étoffes, dont l'épaisseur, heureusement, les empêcha de s'enfoncer profondément dans sa chair. Il tenta de faire lâcher prise à l'animal en lui cinglant le museau de sa main libre, sans résultat. Le chien tenait sa proie. Il ne lâcherait pas. Une odeur forte, fauve, lui fouetta les narines. Un mouvement au-dessus de lui. Le chien qu'il avait agressé sur le toit était descendu dans les charpentes et tendait le cou entre liens de faîtage et arbalétrier pour lui déchiqueter la gorge.